Alors, juste avant qu'on commence l'enseignement de la parole,
Bene, quand tu angola qui j'ambo di mana.
je vous rappelle que demain, nous avons la remise de diplôme, donc pour ceux qui ont fini leurs études à l'Institut biblique à l'étage.
Le candidat vous tient quoi? Je te l'affiche à ma diplôme, comme on va l'engager à ma chouria IBH.
Donc, nous avons mis la réunion à 17 h. Nous allons commencer réellement donc à 17 h 30.
Et je le bisous t'angola neza sa kumini nanusu.
Et nous allons avoir un temps béni. Nous
Tuzogira
avons normalement le pasteur James Musoni du Rwanda qui sera là.
Alors, Pasteur James Musoni azoba ari ngaha hava mu Rwanda.
Et donc il va exhorter les diplômés.
Azoba ari ngaha ngo atere intege abantu
Donc
bazoronka
si vous
amadiplôme.
connaissez des gens qui sont intéressés par l'Institut biblique, c'est le temps de les amener.
Abantu rero bumwibaza ko baba bikunda bagomba kubimenya
Pour qu'ils
na
puissent voir un
kanya.
peu comment ça se passe.
Kuko bahamagara bamenye ingene
Et
bigenda.
puis qu'ils puissent aussi voir eh ben, qu'un jour, s'ils font l'IBH, ils passeront par cette cérémonie de remise de diplôme.
Bongere bamenye ko nabo ni bayiga umunsi umwe bazokwambikwa nyamakanzu bakaronka
Voilà,
amadiplôme
parce
nabo.
que nous voulons vraiment faire connaître la parole de Dieu, aider un maximum pour que la connaissance de Dieu puisse grandir ici dans cette nation.
Benshi bashoboka bamenye ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana rigwire ubumenyi bwaryo ribugwire muri kino gihugu.
C'est vraiment ce que le Seigneur m'a montré un jour.
Nico ki n'Imana nyeretse umunsi umwe.
Il y a besoin d'une connaissance beaucoup plus approfondie des choses de Dieu.
Yanyeretse ko abantu bakeneye ubumenyi bw'Imana
bushitse. Si nous voulons voir un réel réveil dans une nation.
Nimba tugomba kubona ikanguro by'ukuri mu gihugu.
Parce que Dieu envoie des vagues.
Kuko Imana irarungikana
soit de réveil, soit des mouvements du Saint-Esprit.
Yaba ikanguro cyanke kugenderwa na mpwemu yera.
Mais souvent l'église en général n'est pas prête à accueillir un bon nombre de nouveaux convertis ou de personnes qui se donnent au Seigneur. Ce qui fait que dans beaucoup de nations, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande moisson souvent est gâchée à cause d'un manque de bons récipients, c'est-à-dire d'églises locales qui sont stables. De serviteurs de Dieu qui sont formés. De chrétiens qui sont là et qui comprennent ce qu'est l'église de Dieu et ce qu'est l'œuvre de Dieu. Donc l'Institut biblique est fait pour ça. Voilà, nous allons prier et après nous allons continuer à partager la parole de Dieu. Père, nous voulons te remercier pour ce salut extraordinaire que tu nous as donné, Seigneur. Et nous voulons vraiment comprendre ce voyage de l'éternité dans lequel tu nous as emmenés. Parce que, Seigneur, ta parole nous dit beaucoup de choses dessus. C'est pourquoi nous voulons avoir un esprit de révélation dans ta connaissance. Nous voulons découvrir
et
réellement ce que tu dis dans ta parole, parce que tu nous as réservé un plan d'éternité absolument fabuleux. C'est pourquoi nous voulons le comprendre et je prie pour ce peuple ce soir. Je prie aussi pour tous ceux qui écouteront ces enseignements d'une manière ou d'une autre. Et je prie pour que tu illumines les yeux de leur cœur. Pour qu'ils soient motivés pour travailler pour ton royaume. Et qu'au travers de cela, ils puissent ne pas voir le jour après jour ce qu'ils ont devant eux. Mais qu'ils puissent voir avec une perspective éternelle. Afin de construire leur vie sur les fondations éternelles. Non pas sur des choses qui vont disparaître après notre mort physique. Merci Père Céleste, dans le nom précieux de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen.
Amen.
Alors je vous rappelle que nous étudions ce qu'on appelle la consommation du salut. C'est-à-dire ce voyage dans lequel Dieu nous a amenés dans l'éternité. Et c'est très important parce que c'est de là, de cette compréhension spirituelle, que vous pourrez prendre les plus grandes décisions de votre vie. Beaucoup de chrétiens prennent des décisions qui leur coûtent très cher et qui ne sont pas du Seigneur, parce qu'ils réfléchissent au moment, je dirais, au moment, à l'instant présent. Ils ne réfléchissent pas en termes d'éternité. Et cela fait que beaucoup de gens ne sont pas motivés ou sont motivés seulement pour un temps pour Dieu. Parce qu'ils n'ont pas cette perspective de l'éternité. Ils font des choix. Ça les emmène à faire encore d'autres choix.
Puis
ça détermine des directions dans leur vie.
Rappelez-vous
que les décisions que vous prenez jour après jour vont forger, vont façonner les directions que vous allez prendre dans votre vie. Et les grandes directions de votre vie déterminent votre destinée. Donc, les décisions sont importantes
et
doivent être motivées par cette perspective de l'éternité. Et vous ne pourrez jamais prendre les bonnes décisions en tout état de cause selon la mentalité de Dieu si vous n'avez pas une perspective de l'éternité. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de chrétiens avoir des comportements charnels. Ils sont là, ils marchent avec le Seigneur pendant un temps, et puis au bout d'un moment, vous les voyez, ils sont à la croisée de chemin et ils prennent la mauvaise décision. Et ils se retrouvent quelques années plus tard complètement refroidis. Alors que Dieu avait une vie d'épanouissement et de bénédiction pour eux, l'ennemi a miné leur terrain. Et puis les gens sont tombés dans le panneau. Et ils prennent des décisions qui vont commencer à façonner leur destinée. Donc des mauvaises directions. Et ils vont perdre des fois 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de leur vie. Et moi je le vois, vous savez, ça fait presque 30 ans que je suis sauvé. Et il y a des gens qui me disent, oh, pendant 15 ans, pasteur. Alors bon, j'étais jeune, j'avais donné ma vie à Jésus. Et après, vous savez ce que c'est que la vie. On fait de mauvais choix. Et puis ils reviennent au Seigneur, ils ont 35, 40 ans. Quel dommage de revenir au Seigneur à 35 ou 40 ans. Et d'avoir perdu tout ce temps. Non, il faut venir au Seigneur une bonne fois pour toutes. Et foncer. Amen.
Amen.
Mais tout ça, les décisions que vous allez prendre après votre salut, ce sont des décisions qui vont être motivées par quelque chose. Parce que nous sommes tous influençables. De la bonne manière et la mauvaise manière. C'est pourquoi nous devons nous entourer de la mentalité du royaume et de la perspective de l'éternité afin que ce soit l'influence éternelle qui nous aide à prendre des décisions. Donc, qui nous amène dans des directions qui vont façonner notre destinée. C'est très simple comme principe. C'est un principe simple de la vie. Mais c'est très puissant. Chaque décision va t'aider à aller dans une direction. Et les directions principales de ta vie façonnent ta destinée. Chaque décision, tu vas les prendre avec une influence. L'influence du royaume de Dieu, avec la perspective de l'éternité, ou l'influence charnelle qui va t'amener dans une direction charnelle et qui va empiéter sur ta destinée. C'est très simple, la vie. La vie, vous savez, c'est pas compliqué. La vie avec Dieu, c'est fait avec des principes. Des principes relationnels. Des principes que Dieu nous dit dans sa parole. Tu choisis ou tu choisis pas. Tu choisis la direction divine. Bon, des fois, tu vas souffrir. Tu vas avoir des moments difficiles. Tu vas être éprouvé dans tes convictions. Mais au bout d'un moment, cette influence va grandir dans ta vie. Tu vas trouver de l'opposition. Je ne sais pas pourquoi je partage ça ce soir. Je n'avais pas l'intention de partager ça. Je vais venir dans mon sujet, mais pour l'instant, il faut que je le partage.
Donc,
tu vas être là, tu vas être influencé. Et fais très attention. Très attention. Parce qu'il faut que l'influence du royaume de Dieu soit forte dans ta vie. Pour ça, tu dois réfléchir à ton éternité. Tu dois t'imprégner de ce que la parole de Dieu nous te révèle à propos de l'éternité. Quand tu le fais, tu vas réfléchir à deux fois avant de prendre une décision. Parce qu'une mauvaise décision peut t'amener vraiment dans des directions terribles. terrible.
Et
nous avons à faire des choix. La vie est faite d'un certain nombre de choix. Revenons à notre sujet. Il est très important de comprendre cette consommation du salut. La consommation du salut, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est que vraiment derrière le mot salut? Parce que souvent on insiste sur comment entrer dans le salut, c'est-à-dire comment être sauvé, c'est bien. Mais il y a plein de choses intéressantes que le Seigneur en réserve pour nous. Alors nous avons remarqué qu'il y a un jour où Jésus va revenir. La parole de Dieu, c'est le premier retour de Jésus.
On
parle que c'est l'enlèvement de l'Église. C'est la première phase de la première résurrection. Dieu enlève sa bien-aimée, son épouse, son Église. Les morts en Christ qui sont au troisième ciel ressuscitent d'abord. Ceux qui sont vivants dans leur corps sont transformés instantanément. Nous sommes tous réunis dans les airs avec le Seigneur. Et nous allons en direction troisième ciel. Là, nous savons que la tribulation, 7 ans de tribulation vont commencer sur la terre. Nous avons vu que l'horloge prophétique pour Israël va recommencer à fonctionner. Et nous avons vu que nous, pendant les 7 ans, nous serons bien au chaud dans le ciel. Nous recevrons des récompenses selon ce que nous aurons fait de la volonté de Dieu sur cette terre. Donc, je vous ai expliqué tout ça. J'ai expliqué que la terre va subir des jugements divins. Ça commence à Apocalypse 5. La terre va être jugée. Dieu va dire, maintenant ça suffit, j'ai donné des chances aux hommes. Maintenant, je vais leur montrer non plus mon côté de compassion, mais mon côté de colère. Ils auront encore des possibilités de se donner à moi, mais ce sera au prix de leur vie. Et la tribulation, nous savons, est coupée en deux. Il y a la première partie et la deuxième partie que la Bible appelle la grande tribulation. Ensuite, nous avons vu qu'à la fin de la tribulation, Israël sera complètement coincé par toutes les nations du monde, avec l'Antichrist qui aura fait un gouvernement mondial, qui va tout faire pour faire disparaître, éradiquer la nation d'Israël sur la terre. Et c'est là où Jésus va revenir pour la deuxième fois. Nous serons avec lui. Et il écrasera la puissance de l'Antichrist. Et toutes les armées qui se seront liées contre Israël vont être détruites. Mais dans la tribulation, nous savons qu'il y a des gens qui vont se convertir. Des païens. Parce que quand ils vont voir l'Église enlevée, comme vous savez, le monde sait que Jésus revient. Il y a beaucoup d'inconvertis qui savent très bien que Jésus, que Dieu revient, que Jésus revient. Ils en ont entendu parler. Ils ne le croient pas. Ils pensent que c'est des histoires de chrétiens, des histoires de la Bible. Mais le monde sait que Jésus va revenir. Ils savent que c'est écrit dans la Bible. Et quand ils vont le voir, là, ça va faire un choc. Et nous avons vu qu'il y a un certain nombre de gens qui vont se donner à Dieu, qui vont donner leur vie à Jésus pendant la tribulation. Et une grande partie de ces gens-là vont être persécutés à mort. C'est-à-dire que c'est au prix de leur vie qu'ils vont se donner au Seigneur. Donc, certains vont être des martyrs. La Bible en parle dans l'Apocalypse, entre autres. Ils vont mourir parce qu'ils auront donné leur vie à Jésus. Parce que Satan va tout faire pour éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre à ce moment-là. Donc, quand l'Antichrist va régner, il va se faire adorer. Il va dire, c'est moi qui est Dieu. Tout le monde doit m'adorer. Et l'Antichrist sera rempli de puissance démoniaque. Et dans cette période-là, sur la terre, il y aura une confusion énorme. Un immense combat entre les ténèbres et la lumière. Donc juste à la fin de la tribulation, nous avons vu que la terre sera dans un chaos épouvantable. Ça va être absolument terrible. plein de gens seront morts. Il y aura des bains de sang de partout. Comme jamais la terre n'aura connu. Le peuple d'Israël va crier à Jésus. Et nous l'avons vu dans Zacharie. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont persécuté. Et à ce moment-là, ils vont reconnaître quand Jésus va revenir la deuxième fois. Délivrer Israël. Il y aura une conversion. Enfin, beaucoup de gens, pratiquement tous les Israélites qui vont se convertir. Un grand réveil soudain qui va tomber sur Israël. C'est ce que la Bible nous révèle dans la parole. Ensuite, nous avons vu que Jésus revient la deuxième fois, donc il écrase la puissance de l'Antichrist, comme nous avons dit tout à l'heure. Nous, ces saints, nous sommes avec lui. Et nous écrasons aussi la puissance de l'ennemi. Et là, nous avons vu que la Bible nous parle d'une période de 45 jours où le millénium va se mettre en place.
Donc,
je vous rappelle que pour que le millénium se mette en place, d'abord, Satan est lié, nous l'avons vu dans Apocalypse 20. Il est lié pour 1000 ans. Ceux qui n'ont pas servi Dieu à la fin de la tribulation, Dieu va les faire mourir. Et le millénium va commencer avec qui? Avec nous, dans notre corps ressuscité et glorifié, c'est-à-dire avec notre récompense. Ça, c'est le premier type de personnes avec lesquelles le millénium va commencer. Mais nous avons vu aussi que pendant la tribulation, il y a des gens qui se sont donnés au Seigneur, qui sont morts, donc qui sont au ciel, au troisième ciel. Et nous avons vu que la Bible parle d'une résurrection pour eux. Et je vous ai montré que la seule explication qu'on peut avoir, c'est que la première résurrection va se passer en phase. La première phase, c'est à l'enlèvement de l'Église. Ça amène la tribulation. Et la deuxième phase, c'est ceux qui auront donné leur vie à Jésus au prix de leur vie. Ils sont morts et ils vont ressusciter. Maintenant, il y a encore des gens qui sont vivants sur la terre, qui seront là à la fin de la tribulation, comme un bon nombre de Juifs, qui auront donné leur vie à Jésus en reconnaissant le Messie, et eux, ils seront dans leur corps. La Bible ne dit pas qu'ils vont mourir. Donc, dans le millénium, il va y avoir deux types de personnes. Jésus va venir régner pendant 1000 ans. Il y a ceux qui sont ressuscités dans la première phase de la première résurrection et dans la deuxième phase de la deuxième résurrection. De la première résurrection. Donc il y a 7 ans de différence entre les deux. Mais il y a aussi ceux qui ont donné leur vie à Jésus qui ne sont pas morts pendant la tribulation et qui vont entrer dans le millénium avec leur corps non ressuscité. Je tiens à faire cette précision parce que sinon il y a des textes qu'on ne peut pas comprendre. Donc on va relire Apocalypse 20 et on va continuer sur le millénium.
Maintenant.
Je vais le relire rapidement en français. Et il est dit, puis je vis descendre du ciel, verset 1, Apocalypse 20, un ange qui tenait la clé de l'abîme. L'abîme, c'est l'abîme des ténèbres, ok? Alors, je n'ai pas le temps de vous refaire tout un enseignement là-dessus, mais il y a un endroit qui est réservé pour les esprits qui ont chuté. Et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis les trônes. À ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc ça, je vous rappelle que c'est ceux qui ont été martyrs pendant la tribulation, qui sont morts pour leur foi, qui s'étaient convertis pendant la tribulation. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Après, la Bible va nous dire à partir du verset 7 ce qui va se passer après les 1000 ans, c'est-à-dire après le millénium. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché, etc. Ça, on va l'étudier après. Donc, il y a bien cette période de 1000 ans. Il y a bien cette période de 1000 ans. Et en fait, ce millénium va être une période très particulière. Jésus va venir régner à Jérusalem. Avec nous. Et il va y avoir des millions et des millions de personnes qui auront traversé la tribulation, qui seront données au Seigneur.
Qui ne seront
pas morts. Et c'est évident que c'est sur ces gens-là que nous allons régner avec Jésus. Alors, pendant le millénium, c'est l'accomplissement des prophéties pour Israël. La Bible nous montre à plusieurs reprises qu'Israël a une destinée prophétique sur la terre. Et les Juifs se sont toujours attendus à ce qu'ils deviennent la nation la plus puissante du monde. C'est-à-dire qu'à partir de Jérusalem, le Messie doit régner. Ça, les Juifs le savent très bien. Je vous rappelle que c'est pour ça que les disciples ont plusieurs fois posé la question à Jésus. Est-ce à ce moment-là que tu viendras rétablir le royaume d'Israël, etc. On va relire ça parce que c'est vraiment dans la mentalité des Juifs. Parce qu'ils connaissaient ces prophéties. C'est dans Acte 1, entre autres.
Ils
le savaient très bien. Verset 6. Ils savent que Jésus va partir. Et bon, ils se posent pas mal de questions. Parce qu'ils ont vu le Seigneur apparaître pendant 40 jours.
Hein,
on va relire un peu plus haut au verset 1. Il dit Théophile, acte 1:1, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert, qu'il leur apparut pendant 40 jours, en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Regardez bien la question maintenant que les disciples vont poser. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël. Lis le verset 6. Et ça, c'était une question parce que les Juifs le savaient. Les Juifs savaient que le royaume leur sera donné. C'est-à-dire qu'ils vont régner sur la terre. Le peuple de Dieu doit régner sur la terre. David avait des promesses d'un successeur éternel. Dieu lui avait promis cela.
Et
évidemment, ça allait s'accomplir au travers de qui? Du roi des rois. Jésus.
Jésus-Christ.
Et ça, c'était clair. Les Juifs le savaient. Un Messie allait venir. Quelqu'un qui allait être loin. C'est-à-dire par la puissance du Saint-Esprit qui allait régner et amener la théocratie. C'est-à-dire, effectivement, comme ça a été traduit, c'est-à-dire que Dieu vient régner. Donc ça, c'est ce que les Juifs savaient. Donc comme les disciples savaient très bien que Jésus était le Messie. Ils s'attendaient à ce qu'il règne. Mais entre-temps, rappelez-vous, eux ne savaient pas encore. Les disciples ne le savaient pas. Il allait y avoir la dispensation de l'Église. Là où nous sommes, où Dieu allait choisir un peuple qui allait le servir parmi les païens. C'est nous. Nous qui avons accepté le Seigneur.
Donc,
dans le millénium, il va y avoir quelque chose de très particulier. Rappelez-vous, on commence d'abord avec des gens qui ne peuvent plus pécher, c'est-à-dire nous et ceux qui sont ressuscités encore pour la deuxième phase de la première résurrection. Corps incorruptible. Je vous rappelle qu'il ne peut plus pécher et qui est immortel. Donc, ça commence aussi avec nous. Nous sommes présents dans le millénium.
Vous
verrez, vous vous rappellerez quand vous serez dans le millénium ce que je vous ai enseigné. Parce que c'est la parole. Mais on sera aussi avec des gens qui ont Jésus dans leur cœur. Mais qui n'auront pas leur corps incorruptible. Par contre, Jésus va mettre de l'ordre sur la terre. Parce que d'abord, c'est lui qui va régner. Et il va régner sur sa propriété. Rappelez-vous le plan originel de Dieu. Normalement, la terre est une extension du ciel. Et Adam et Ève étaient supposés être roi et reine.
Hein.
Et ils sont devenus esclaves et esclaves. À cause de leur péché. Ils ont donné la gestion aux mauvais gestionnaires, aux pires gestionnaires qui existent. Donc, la terre est dans un chaos. Mais quand Jésus va venir régner à Jérusalem, on aura le meilleur des meilleurs des meilleurs des leaders.
Que
la terre n'aura jamais connu. Et il y aura les meilleurs des meilleurs sujets, c'est-à-dire nous, avec lui pour régner. Rappelez-vous que la terre aura été laissée dans un chaos. Et la terre va connaître un temps très particulier de prospérité à tous égards, comme elle n'a jamais connu. Et il y a un certain nombre de caractéristiques que la Bible nous donne. La Bible nous parle du millénium et nous parle de certaines caractéristiques. Alors, la Bible, par exemple, nous parle de quelque chose de très important qu'on trouve dans Habakkuk 2. Alors, Habakkuk, c'est dans les petits prophètes. Donc, on va chercher dans les petits prophètes. Et je vais essayer de vous donner comment vous repérez dans les petits prophètes. Alors, vous prenez Zacharie. Donc, c'est facile, c'est, vous avez Malachie, dernier petit prophète.
Vous
retournez en arrière, vous avez Zacharie. Après, vous avez Agé. Après, vous avez Sophonie. Et après, vous avez
Habakkuki.
Alors, dans Habakkuk chapitre 2, au verset
14,
il y a une prophétie qui n'est pas pour nous. C'est une prophétie messianique. C'est une prophétie qui n'est pas pour le temps de l'Église. C'est une prophétie qui s'accomplira pendant le millénium. Il est dit... Chapitre 2, verset 14, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » Et si vous regardez bien dans vos Bibles, vous avez un petit parallèle vers Ésaïe chapitre
11.
Et effectivement, et particulièrement Ésaïe, va nous donner beaucoup de prophéties sur le millénium.
Si
vous regardez au chapitre 11, mais ce n'est pas le seul chapitre où on parle des temps messianiques. Mais il faut savoir que ces temps messianiques seront très particuliers. D'abord, la connaissance de Dieu va se répandre sur toute la terre. Rappelez-vous, les gens qui seront restés vivants dans leur corps et qui auront accepté Jésus et qui auront traversé la tribulation, beaucoup de ces gens-là seront traumatisés. Parce que la terre n'aura jamais connu un tel chaos pendant ces temps.
Mais
ces gens-là auront quand même accepté le Seigneur. Ils
ne
seront pas morts, mais ils auront vu beaucoup de gens mourir pour leur foi. Ils auront vu la fin du monde. Nous avons étudié ce qu'était la fin du monde. Et là, ils rentrent dans le millénium. Il y en a des dizaines, voire des centaines de millions. Et la Bible nous parle ici que la connaissance de Dieu va se répandre sur toute la terre. Rappelez-vous que Satan a toujours essayé d'opposer, de d'éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre.
Oui, que Satan a réclamé à gaza gukora no gukura ubumenyi bw'Imana.
Ou alors donner une fausse connaissance de Dieu.
Cyangwa naho agatanga ubumenyi butari bwo bw'Imana.
Et la fausse connaissance de Dieu, c'est un nom.
Ubumenyi butari bwo bw'Imana nabwo burafise izina.
Et derrière tout ça, il y a des esprits de mensonge.
Kuko inyuma y'ibyo byose hama hari
impuhe muzi binyoma. Le nom de la fausse connaissance de Dieu, ça s'appelle la religion.
Izina ryo ryinovuga ry'ukumenya Imana kutari ko.
Parce que la religion dit qu'il y a un Dieu. Mais la religion n'amène pas une révélation. Et c'est ça le grand piège de la religion. Donc Satan, d'une manière ou d'une autre, depuis qu'il a récupéré la gestion de la terre,
essaie
toujours de faire une chose, soit d'amener les gens en rébellion contre Dieu, soit d'amener les gens dans des aveuglements, c'est-à-dire à croire des choses, pensant qu'elles sont vraies, et ces choses-là les amènent en enfer. Donc là, ce qui va se passer, alors que le diable aura tout fait pendant la tribulation pour éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre, là, pendant le millénium, ça va être le processus inverse. Rappelez-vous, dans Apocalypse 20, la Bible nous dit que Satan ne pourra plus séduire les nations. Pourquoi ? Parce qu'il sera dans une prison spirituelle que la Bible appelle le Tartaros, où sont tous les mauvais esprits qui avaient chuté lorsque le diable s'est rebellé. On ne sait pas il y a combien de temps. Nous savons que c'est dit, ça nous est révélé dans Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. Et en fait, dans cette période de millénium, c'est exactement l'opposé de ce qui s'est passé pendant la tribulation. Les gens vont chercher à connaître Dieu de plus en plus. Et ça, c'est une première caractéristique.
Donc,
la connaissance de Dieu va se répandre dans le monde entier. Nous dit la parole de Dieu. Mais il y a d'autres caractéristiques intéressantes à propos de ce millénium. Rappelez-vous que millénium, ça vient d'un mot latin.
Qui veut dire mille
ans. Non, latin. C'est une expression qu'on utilise souvent quand on dit le millénium, c'est le règne de mille ans de Jésus. Alors par exemple dans Ésaïe 11, on a un certain nombre de choses qui nous sont révélées à propos du millénium. Au verset 1, il est dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, c'est-à-dire la postérité de David, donc nous savons que nous c'est le Messie, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre, il frappera la terre du sceptre de sa parole et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup, regardez bien ces choses-là maintenant, le loup séjournera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de la spie, il ne fera ni tort ni dommage, ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Et en fait, ici, dans tout ce passage, il est clair que la Bible nous parle d'un temps un peu particulier. Et dans beaucoup de Bibles à commentaires, vous verrez que vous avez en sous-titre, au début du chapitre 11, les temps messianiques. Ou règne messianique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons même les bêtes sauvages s'entretuer. Des bêtes sauvages faire peur aux hommes. On voit toujours de l'adversité dans ce monde. Et là, on parle d'une paix. une paix extraordinaire. Donc la Bible nous parle qu'il y a un temps où les choses vont changer. Effectivement, Jésus va mettre un règne de paix et d'équité. La gloire du Seigneur va se manifester d'une façon très spéciale. La Bible nous dit que Jésus va régner. Il va paître les nations avec une verge de fer. C'est-à-dire que en fait, tout ce qui sera injuste sera puni. Nous ne pourrons pas faire des actes injustes puisque nous serons dans notre corps ressuscités et glorifiés.
Par contre,
rappelez-vous
que
le millénium commence aussi avec des gens qui sont sortis vivants, qui ont cru en Dieu, mais qui sont sortis vivants
de la tribulation.
Et quand ils vont rentrer dans le millénium, bien sûr, il n'y aura plus de diable pour les tenter et amener des choses mauvaises dans ce monde. Mais le millénium sera une période qui va montrer quelque chose. Parce que nous allons voir qu'à la fin du millénium, il va y avoir quand même des gens qui vont se rebeller contre Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup interpellé les commentateurs bibliques. Et en fait, ça arrive à la conclusion suivante. C'est que, en fait, pendant le millénium, les hommes auront une pleine chance de marcher avec Dieu dans une pleine connaissance, sans avoir Satan qui essaye de les faire chuter, comme par exemple dans le jardin d'Éden, ou comme dans les temps dans lesquels nous sommes. Mais ça prouvera encore une chose,
c'est
qu'il y aura quand même des gens qui vont se liguer et se mettre contre le Seigneur, alors qu'ils auront toutes les chances de leur côté de marcher pleinement avec Dieu. Nous allons voir ce qui va se passer à la fin du millénium. Mais pendant le millénium, sur la terre, il va y avoir des gens qui vont naître encore. Parce que c'est souvent une question que les gens ont.
En disant,
mais le millénium, tout va commencer avec des gens qui sont parfaits. Mais il y a quelque chose dans cette interprétation qui ne va pas. Parce que juste à la fin du millénium, il y a encore une dernière petite rébellion contre Dieu.
Donc,
obligatoirement, il y a des personnes qui vont faire du mal. Alors que pourtant, Satan est lié. Mais des gens qui vont quand même se rébeller. Et effectivement, il y a des gens qui vont naître pendant le millénium. Non pas de nous, parce qu'en tant que corps ressuscité, nous n'aurons plus de sexe et nous ne pourrons plus nous marier ou avoir des enfants. Donc, de toute façon, ça
ne
viendra pas de nous, mais ça viendra justement de ceux qui ont été enfantés
par
ceux qui sont rentrés dans le millénium, les gens donc, qui auront eu des enfants, qui ont continué des familles, dans cette période-là.
Et
la Bible va nous parler de quelque chose d'assez intéressant. Regardez par exemple Ésaïe 65. Ésaïe est celui qui a reçu le plus de prophéties à propos du millénium. Et c'est vrai que parfois, quand on lit certains passages, on est vraiment interpellé, on se dit waouh! Période très particulière. Alors, à partir du verset 18, Ésaïe 65, la Bible va nous révéler des choses absolument étonnantes. Et les commentateurs relatent ça, mettent ça, donc, je dirais, dans le temps messianique, les temps messianiques, c'est-à-dire le temps du millénium.
Il est dit, verset 18,
« Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus là de nourrissons vivants quelques jours seulement, c'est-à-dire des bébés qui vont mourir, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ses jours. Car le plus jeune mourra, regardez bien ce que dit la Bible, à 100 ans. Waouh ! Et le pécheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des verges et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ça, c'était la malédiction. Ils ne planteront pas pour la nourriture d'un autre, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains, et ils ne peineront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour l'épouvante, et ils formeront la descendance des bénis de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Alors, avant qu'ils m'invoquent, moi je répondrai. Ils parleront encore que moi j'exaucerai. Le loup et l'agneau, tiens donc, on retrouve les mêmes choses ici, auront un même pâturage. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc ici, on trouve un texte qui nous parle d'un temps étonnant. Et là, on n'est pas dans le temps de l'éternité où Dieu a recréé les cieux et la terre. Nous allons en parler plus tard. Où Dieu est tout en tous, on verra que ça c'est la finalité de toute chose. Parce qu'on est encore dans une période où il y a des naissances. Et il y a aussi des gens qui meurent. Mais on voit qu'il y a une longévité exceptionnelle. C'est aussi une caractéristique du millénium. Des gens qui vont vivre très longtemps. C'est étonnant. On dit que quelqu'un qui sera âgé de 100 ans sera jeune. S'il meurt à cet âge-là, il sera encore jeune. Ça sera quelque chose d'étonnant. Ça veut dire qu'on va certainement retrouver des longévités pour ces gens, pas pour nous. Nous, on a la vie éternelle, on sera déjà dans notre corps éternel.
Mais
ces gens qui vont naître pendant le millénium,
ils
seront dans une période où il y aura une longévité particulière. Où apparemment, la maladie ne sera pas là. Ou très rare. La mort sera rare en étant jeune, c'est-à-dire en ayant 100 ans. Ça nous fait un peu penser à la période, vous savez, du début de la Genèse. Où les gens vivaient très longtemps. 600 ans, 700 ans, 900 ans. Et on a l'impression un petit peu de se retrouver dans ces périodes-là. Donc c'est aussi une caractéristique du millénium. Immense prospérité. Le meilleur des leaders mondial sera là, c'est Jésus. Il aura le meilleur entourage, c'est nous. Donc la terre va avoir un ordre qu'elle n'aura jamais connu. Il
n'y
aura plus de guerre. C'est très simple. Plus de crise économique. Plus de peur du lendemain.
Mais
une connaissance de l'Éternel qui se répand. Pour ceux qui vont naître. On va leur transmettre la connaissance de l'Éternel. Période très très particulière que la Bible nous décrit. On en a des grandes lignes, on n'a pas tout. On a un certain nombre de choses que la Bible va nous révéler. Mais pas tout. Donc, par exemple, il y a d'autres passages dans Ésaïe 2, par exemple, aussi.
Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2.
Ésaïe chapitre 2.
Ésaïe chapitre
2. Plusieurs passages comme ça.
Hein.
En fait, il y a surtout Ésaïe 2, Ésaïe 9, Ésaïe 11, Ésaïe 65 et 66. Donc, chapitre 2, verset 2 à 4, il est dit, il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la montagne du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise dans ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem, sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre les nations, il sera arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre et on n'apprendra plus la guerre.
kumurongo wa kabiri avuga ngo mu minsi iherezo umugwa wubatswe kw'ingoro y'Uhoraho uzogasara ku mpinga z'imisozi uzoshirwa hejuru y'indi y'iyindi mirambi kandi amahanga yose azosendanisha aja kuri wo amoko menshi azojayo abarirane ati nimuze tuduge tuje ku mugwa w'Uhoraho ku ngoro y'Imana ya Yakobo kugira ngo itwigishe iby'inzira zayo natwe tuzigenderemo kuko isiyoni ariho hazova ibyagezwe ni Yerusalemu hakava ijambo ry'Uhoraho azocira imanza amahanga atatura amoko menshi inkota zabo bazozivunja amasuka n'amacumu bazoyavunja mw'inkero nta hanga rizobangurira irindi hanga inkota kandi ntibazokwiga kugwana ukundi.
Donc c'est très clair dans la Bible.
Uruva biratomboye mu ijambo ry'Imana.
La Bible nous parle de conflits, de guerres, de tout un tas de choses.
Itubwira intambara, ukugwana n'ibindi.
Pendant la tribulation, nous parle d'horreur totale.
Mu gihe cy'ihamwe batubwira ko hazoba hari ingorane zikomeye.
Pendant le millénium.
Mu gihe cy'imyaka igihumbi.
Nous parle du roi des rois qui règne à Sion.
Bazotubwira umwami w'abami aganje
Que la connaissance de l'Éternel vient à partir de Jérusalem.
Ubumenyi bw'Uhoraho bukaza buciye
muri Yerusalemu. Rappelez-vous qu'Israël a été la nation qui a été désignée par Dieu.
Wibuke Israël ni igihugu cyatowe n'Imana.
Pour transmettre la connaissance de Dieu sur la terre.
Kugira ngo itanga ubumenyi bw'Imana ku isi.
Avec tous les rois qu'ils ont eu, ils ont échoué.
Hamwe n'abami bose bagiye bararonka byarabananiye.
Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot.
Ariko Imana ntiyavuze akajambo kayo kanyuma.
Le plan originel de Dieu est toujours d'actualité.
Wibuke wa mugambi wa mbere w'Imana iracawo
Dieu a suscité au travers d'Israël le Messie.
Yahagurukije bice muri Israël Messia.
Qui au travers de son sacrifice a permis l'entrée du royaume de Dieu.
Bice mu kimaze ciwe ashoboza kwinjira mu bwami bw'Imana.
Par la nouvelle naissance à ceux qui croiraient.
Abantu bose bazokwizera babanje kuvuka ubwa
kabiri. Prépare un peuple
Imani ko yitegurira
avec lequel il va régner.
Izoganzanya nabo.
Et pendant qu'il va régner avec son peuple,
mais
avec d'autres qui l'auront accepté juste pendant la tribulation et qui eux auront des enfants, c'est à eux qu'on apprendra l'instruction sur la connaissance de Dieu. Période très particulière de l'histoire de l'humanité. Cette période va durer 1000 ans. La terre va être dans une condition extraordinaire. La justice sera rendue. Si jamais quelqu'un commet l'injustice, non pas nous, je vous le rappelle, mais les descendants de ceux qui auront passé la tribulation. Ils seront tout de suite châtiés, repris parce que ça ne sera pas permis dans le royaume de Jésus sur cette terre. Et le millénium, c'est l'accomplissement de toutes les prophéties pour Israël tant que Dieu n'a pas recréé toute chose. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Dieu a promis des choses pour Israël. Il les accomplira pendant le millénium. Donc, c'est une période très particulière. Paix, connaissance de Dieu, prospérité, toutes sortes de choses extraordinaires. En fait, ce sont les enfants de Dieu qui auront toutes les cartes et tout dans leurs mains pour jouir et faire prospérer la propriété de notre roi. Puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes dans le plus grand hold-up de l'histoire de l'humanité. Ce sont les païens, les pécheurs qui profitent le plus des richesses de notre Père. Sur la propriété de notre Père, parce que le diable a pu récupérer au travers de l'homme la gestion de la terre. Alors pendant ces 1000 ans, ça va être vraiment très parfait.
Une
chose extraordinaire. Mais juste à la fin des 1000 ans, la Bible va nous dire quelque chose dans Apocalypse 20. Et c'est là où on ne peut qu'interpréter de la façon suivante. Parce qu'il va y avoir à la fin du millénium quelque chose de particulier. Une dernière bataille qui va être apparemment très rapide. Et il est dit, verset 7 d'Apocalypse 20, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, ils montèrent à la surface de la terre et investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, c'est-à-dire Jérusalem. Mais le feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles.
Ngo kandi iyo myaka igihumbi niyashira ku murongo w'indwi Satani azorekerwa ngo ave mu ibohero azosokoroka aje kuzimiza amahanga yo mu mfuruka zine z'isi Gogi na Magogi kugira ngo ayakoranirize hamwe ku ntambara igitigiri cyabo ni nk'umusenyi wo ku kiyaga baraduhuga bakwira isi yose bakikiza aho ingabo z'abera zishagaje na ca gisagara gikundwa umuriro uratiba kuvuye mu ijuru urabarigata.
Donc là, on voit une dernière rébellion qui est soulevée par le diable, relâchée de sa prison au bout de 1000 ans, et qui va séduire des gens.
Maze aza kubesha abantu kwifatira abantu kandi
Gog et Magog.
Aba batubwira Gog na Magog.
C'est la Russie.
N'uburusiya.
Ça c'est très clair.
Biratomo
dans la parole de Dieu, Gog et Magog représentent la Russie.
Baberekana ko ari uburusiya.
Donc nous savons que cette dernière rébellion, la fin du millénium, viendra à partir, donc c'est là où Satan trouvera le plus de personnes pour aller les séduire. Pourtant ce seront des gens qui auront eu l'occasion pendant le millénium d'avoir la connaissance de Dieu, de naître de nouveau, et à ce moment-là, ils auront refusé, ils se seront tenus à peu près correctement pendant le règne de Christ. Mais là, ce qu'on voit, d'après les Écritures, juste à la fin des 1000 ans, Satan sort de sa prison, c'est Dieu qui le fait sortir une dernière fois, avant qu'il soit jeté dans le lac de feu et de soufre. Et en fait, quand comme il va sortir de sa prison, il va essayer de jouer un dernier coup de rébellion contre Dieu. Il va enflammer une rébellion parmi des gens qui seront nés pendant le millénium, qui ne seront pas morts pendant le millénium, mais qui n'auront pas servi Dieu quand même. Et à ce moment-là, c'est avec ces gens-là qu'il va essayer de faire un dernier truc. Et Dieu va aller écraser tout cela. Il va faire mourir tous ces gens. Et ça sera la fin de la fin. Juste après, il y aura le grand trône du jugement de Dieu, c'est-à-dire le jugement dernier, que nous étudierons la prochaine fois, où là, Dieu fera ressortir les morts de l'enfer. Ils ressusciteront pour la deuxième résurrection. Ils seront jugés selon leurs œuvres. Et une fois que ce jugement sera établi, c'est là où Dieu finira de mettre sa touche finale à la consommation de notre salut. C'est ce que nous étudierons la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une super soirée. Et puis demain donc pour l'Institut biblique et dimanche pour le culte.